Il avait des reflets de toutes les couleurs. Je l'ai mis dans ta main, ma sœur.
Car même ces pierres précieuses qui ont tant de valeur ne valent pas le poids qu'elles nous laissent sur le cœur. Et puisqu'il faut avancer avant que l'on en meure, faudra-t-on séparer à la bonne heure.
Gotta move on, I gotta see tomorrow. Gotta move on, gotta get ahead. À toutes les tours 20 de France. J'ai pas payé le loyer depuis février, mais bon, j'aurais plus de chance en mars. Sincèrement, les gens râlent car c'est rare que l'ascenseur marche dans le temps. J'ai pissé dedans, ok, j'admets. Mais t'as pu au 16, il s'arrête au 15 et demi. Gardien, c'est quoi ce délire? Eh, regarde bien, ta fiche de paye, je la tiens dans les mains, c'est quoi, je te vire. Y'a des gens qui jetaient les télés par la fenêtre, faut être fêlé, certes. Mais tel était le délire, mec, tu connais le train-train. Très peu d'étreintes, ça craint. Dans les familles, les beaux-pères picolent, les gars m'attrinquent. Celle du 10 ressemble à Liste et l'or, une vieille qui trompe son mari avec. Bref, la liste. T'es longue, dès lors, je me fous de l'heure. Vite, fous de l'heure, vite tout court. La nuit, ils se foutent des coups, ils se foutent de l'heure. Regarde la matinée,
il est 13h.
Et arrête Kilo.
RFI Musique.
Vous écoutez RFI, les 13h à Paris, 11h en temps universel. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux. Le tour de l'actualité dans le monde et à la une ce mardi 5 mai. Toujours pas d'endroit défini pour accoster pour le bateau de croisière à bord duquel 3 personnes sont mortes à cause d'un hantavirus. Ce bateau se trouve au large des îles espagnoles et les autorités préviennent qu'elles ne prendront aucune décision tant que les données épistémiologiques n'auront pas été analysées. L'OMS soupçonne une transmission d'homme à homme sur le bateau, ce qui est très rare avec cette maladie respiratoire. On essaiera de comprendre comment elle se transmet et si elle peut représenter un risque plus large avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Au sommaire également des menaces et des déclarations toujours de la part des États-Unis et de l'Iran qui avertit ce matin sur le risque d'un bourbier après des tirs hier dans le détroit d'Ormuz. Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a près d'un mois, Téhéran assure aussi que ce n'est que le début du bras de fer et pendant ce temps, Israël continue de bombarder le Liban malgré la trêve. Continue aussi de coloniser la Cisjordanie. Les colons multiplient les attaques contre les Palestiniens.
Ils lançaient des pierres, visaient les fenêtres. J'ai immédiatement pris mes enfants et nous nous sommes réfugiés sur le toit. Puis ils ont lancé des cocktails incendiaires. La maison a pris feu. Ils continuaient à jeter des pierres en direction du toit. Il y avait une fumée très dense. Je déplaçais mes enfants d'un coin à l'autre du toit pour l'éviter. La scène était horrible.
Reportage à écouter juste avant midi et demi, temps universel, donc juste avant Afrique Midi. Nous parlerons à ce moment-là du débat sur la modification de la Constitution en République démocratique du Congo.
RFI Midi.
Le journaliste français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie, renonce à se pourvoir en cassation. Ses parents le confirment ce matin, espérant ainsi pouvoir obtenir une grâce présidentielle. Vous les entendrez dans un instant dans le journal et on reviendra plus longuement sur la situation de ce journaliste sportif dans une demi-heure. On parlera aussi dans RFI Midi de la visite d'Emmanuel Macron en Arménie, où se tenait hier un sommet européen, et de celle de la première ministre italienne chez le voisin, l'Azerbaïdjan, pays gros producteur de pétrole et de gaz et très courtisé dans le contexte actuel de crise. Vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite, le journal. Bonjour Simon Marseille.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Le président arménien au piano, son homologue français au chant.
C'est l'image de la veille à Yerevan, en Arménie. Emmanuel Macron qui entonne Ma Bohème de Charles Aznavour, artiste franco-arménien. Yerevan qui accueille un sommet Arménie-Union européenne ce mardi, avec d'abord une séquence symbolique. Valérie Gaz, vous êtes sur place pour RFI. Le chef de l'État s'est rendu ce matin au mémorial dédié aux victimes du génocide arménien.
Un moment d'émotion sous un soleil de plomb. Emmanuel Macron est arrivé au mémorial sur les hauteurs d'Erevan aux côtés du président Ratchatourian au son de l'orchestre de l'état-major général de l'armée. Les deux présidents se sont recueillis devant la flamme du mémorial. Des œillets blancs étaient déposés en hommage aux victimes du génocide arménien. Et puis Emmanuel Macron a rempli le livre d'or, mémoire et tombeau face à l'imprescriptible pour que résonne chaque nom et pour que l'oubli s'éloigne, a écrit le président. En 2018, déjà Emmanuel Macron était venu au mémorial et la France commémore chaque année le génocide arménien le 24 avril. Après un dîner d'État très convivial et détendu hier soir, au cours duquel Emmanuel Macron a même poussé la chansonnette en fin de soirée en interprétant La Bohème, un titre du plus arménien des Français, Charles Aznavour, accompagné à la batterie par le Premier ministre Pachinian. La visite prend une tournure mémorielle et politique avec la signature d'un accord de partenariat stratégique. Valérie Gasse, Erevan, RFI.
L'Espagne ne prendra aucune décision sur l'accostage du navire de croisière frappé par un possible foyer d'antivirus. C'est ce que déclare à l'instant le ministère de la Santé espagnol, qui attend que les données épidémiologiques soient analysées. L'antivirus, c'est cette maladie qui peut provoquer des symptômes respiratoires graves. 149 voyageurs sont à bord de ce bateau de croisière. L'Organisation mondiale de la santé soupçonne une transmission d'homme à homme. L'OMS qui a déjà confirmé 2 cas et en suspecte 5 autres. Le bras de fer n'a même pas commencé. Voilà l'avertissement de l'Iran au lendemain d'une journée tendue dans le détroit d'Ormuz, alors que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Téhéran a ouvert le feu à plusieurs reprises. Un site pétrolier des Émirats Arabes Unis a même été visé, attaque condamnée par plusieurs pays. Et malgré les accrochages, la marine américaine assure avoir escorté 2 navires. Faux, répondent les Iraniens, qui contrôlent ce point de passage par lequel transite 20% du commerce mondial d'hydrocarbures. En réponse, Donald Trump poursuit son blocus des ports iraniens. Mais pas de quoi asphyxier l'Iran, Pierre-Olivier.
Habituellement, le pétrole rapporte à l'Iran 5 à 6 milliards de dollars par mois. Depuis le blocus américain, ce chiffre a fortement baissé, mais Téhéran a encore une marge de manœuvre, à savoir ses pétroliers qui sont partis avant la fermeture américaine du détroit d'Ormuz. Omayoun Falakshahi, responsable de l'analyse pétrolière chez Kepler.
L'Iran possède actuellement 180 millions de barils à peu près, déjà chargés en mer, ce qui représente 4-5 mois d'équivalent de chargement. Et sur ces 180 millions, il y a à peu près 120 millions qui se trouvent hors de la zone du blocus, donc qui théoriquement peut être vendue et être transformée en revenu.
Ces 120 millions de barils se trouvent aujourd'hui proches de la Chine et de Singapour. Une fois réceptionnés, l'Iran devrait être payé, à une condition toutefois.
Si les flux financiers peuvent retourner en Iran, puisque les Américains mettent beaucoup de pression sur les Émirats, par lesquels transitent une bonne partie des flux financiers à destination de l'Iran, pour que justement ces pétrodollars ne retournent pas en Iran.
Si l'Iran parvient à se faire payer ces millions de barils déjà en mer, les spécialistes prévoient les premières vraies répercussions du blocus américain sur l'économie iranienne d'ici 2 à 3 mois.
Pierre-Olivier du service économie d'RFI. Et conséquence des tensions ces dernières 24 heures, les cours du pétrole ont bondi de près de 6% hier lundi avant de redescendre légèrement ce mardi matin.
En parallèle, Israël poursuit ses opérations au Liban.
Mettant là aussi un cessez-le-feu à rude épreuve. D'un côté, l'armée de l'État hébreu a de nouveau appelé hier les Libanais de plusieurs villes du sud à évacuer. De l'autre, le Hezbollah pro-iranien continue de revendiquer des attaques. Au milieu, des civils régulièrement déplacés, une crise humanitaire que l'aide internationale peine à enrayer. Et les provisions et les médicaments arrivent au compte-gouttes. Notre correspondante Sophie Guignon a pu suivre l'arrivée d'un avion humanitaire français.
Sur le tarmac de l'aéroport de Beyrouth et sous une pluie battante, un 3e chargement d'aide humanitaire venu de France vient d'atterrir. À son bord, 28 tonnes d'aide médicale. Bruno Da Silva, chargé d'affaires à l'ambassade de France au Liban.
Jusqu'à présent, la France a permis de faire venir une centaine de tonnes d'aide humanitaire. Là, il s'agit de médicaments, mais on a aussi fait venir des kits de nutrition infantile, des choses pour les femmes enceintes, des tentes. Évidemment, ça ne suffit pas et les besoins continuent tant que le conflit continue.
Ces médicaments seront acheminés dans des hôpitaux publics. Une goutte d'eau dans un océan de besoins, car la guerre a fait plus de 8000 blessés. Il reste toujours des centaines de milliers de déplacés.
Évidemment que la solution, elle n'est pas humanitaire. La solution, elle est politique. Le Hezbollah doit désarmer pour ne plus être une menace envers les Israéliens. Et si la menace envers les Israéliens disparaît, Israël, nous l'espérons, n'aura plus aucune raison d'occuper une partie du territoire libanais. Et donc évidemment, le chemin pour y arriver est long et escarpé, mais c'est celui-là sur lequel il faut s'engager.
En attendant, l'armée israélienne rase des villages entiers à la frontière et le Hezbollah refuse de déposer les armes. Sophie Guignon, Beyrouth, RFI.
L'actualité au Proche-Orient, c'est enfin cette décision de la justice israélienne de prolonger jusqu'à la fin de la semaine la détention des activistes de la flottille pour Gaza. Ils avaient été arrêtés au large de la Grèce. C'est l'ONG Adala qui l'a annoncé, ONG qui dénonce par ailleurs des mauvais traitements de ces détenus brésiliens et espagnols.
Quelles leçons tirer 6 mois après l'attentat antisémite qui a fait 15 morts sur une plage de Sydney?
C'est la question à laquelle tente de répondre une commission d'enquête sur l'antisémitisme. Depuis hier lundi, des membres de la communauté juive sont entendus. Ce que révèlent ces auditions, c'est que depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël et la réplique brutale de l'État hébreu dans la bande de Gaza, les actes antisémites se multiplient dans le pays, à tel point, Grégory Pless, que l'on préfère se cacher.
Face à la montée de l'antisémitisme en Australie, une part grandissante de la communauté juive renonce à afficher publiquement sa judéité. C'est par exemple le cas de Dina, une mère de famille de Sydney, qui a expliqué devant la commission d'enquête qu'elle hésite à garder la mezouza qui, comme pour toutes les familles juives, est apposée à côté de la porte de sa maison, par crainte de devenir une cible.
Je crois que c'est un sentiment partagé au sein des familles juives qu'avoir une mezouza, cet objet qui les identifie, qui est accroché sur le seuil de la porte, c'est une question qui ne s'était jamais posée avant le 7 octobre.
Pour les enfants étudiants dans les écoles juives d'Australie aussi, il y a un avant et un après 7 octobre. C'est ce que décrit Jeremy Stowe Lindner, le directeur d'une école juive de Melbourne.
Depuis le 7 octobre, nous sommes confrontés à une avalanche d'incidents. Ça peut être des gens qui passent devant l'école en voiture et nous crient « sale juif » ou qui font des saluts nazis. Dans les transports en commun, nos élèves sont la cible d'insultes antisémites. On ne peut même plus se rendre dans le centre-ville de Melbourne en portant l'uniforme de l'école.
Jusqu'au 15 mai, des dizaines d'autres témoignages doivent être encore recueillis par la commission d'enquête. Elle rendra son rapport définitif au plus tard le 14 décembre prochain, un an exactement après l'attentat de Bondi. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Le journaliste français Christophe Glaise remet son destin entre les mains du président de l'Algérie. Notre confrère condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme dans le pays renonce à son pourvoi en cassation. Seule voie de sortie désormais, une éventuelle grâce du président Abdelmadjid Tebboune. C'est en tout cas ce qu'espèrent sa mère et son beau-père Sylvie et Francis Godard.
Le retrait du pourvoi s'explique par le fait que on a eu quelques informations sur le fait que le gouvernement algérien disait qu'il ne pouvait pas avancer sur le dossier de Christophe, sur sa libération, tant qu'il y avait un pourvoi en cassation. Donc on a décidé de demander à Christophe de se retirer, il était d'accord, et il l'a fait mi-mars.
C'était une décision de sa part courageuse, parce que demander l'annulation du pourvoi en cassation, en termes strictement juridiques, c'est admettre sa culpabilité. Christophe n'admet pas sa culpabilité, mais simplement, ça nous permet, comme Sylvie vient de le dire, de faire en sorte qu'on ne soit pas pris dans les mailles d'un argumentaire qui consiste à renvoyer à une procédure judiciaire en cours dont on n'a aucune idée des échéances.
Voilà la mère et le beau-père de Christophe Glaise détenu en Algérie au micro de Tanita Fallet. Enfin, pour finir ce journal, connaissez-vous la John Lemon? Une bière française blonde au gingembre et au citron, d'où Lemon en anglais. Un nom proche, trop proche de celui du chanteur des Beatles John Lennon. C'est ce que lui reproche sa veuve Yoko Ono qui a attaqué la brasserie en justice. Une publicité inespérée qui a eu l'effet totalement inverse. Malgré la pression, plusieurs milliers de John Lemon ont été écoulés.
Simon Marseille pour le journal.
Radio HBR, le mix.
Le mix.
Le mix. Culture de toutes les cultures.
99.1 FM. Radio
HBR.
Il n'y a qu'à appuyer sur play.
HBR.
Le mix de toutes les cultures.
Toutes les cultures.
C'est sur
HBR.
me how to make it right. Cause I'm blue just like the sky. Yes, I'm lost where you shine tonight. I know that I need her. Can you change her heart? Can you change her mind? Can you move for me like you move the tide? Can you change the stars? Can you make it right? I know that I need her.
Ce bon sang de bonsoir, c'est pas Rastairon, c'est pas prêt, tu vas voir. Ton cœur en tourbillon, ton cœur qui va vouloir cadencer ta circulation sur les scans de guitare. Ton bassin à l'unisson, la basse.